Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 10 nouveautés sur les écrans mensaux. On va commencer par L'amour, c'est surcoté, puis La chambre de Mariana, La légende d'Oshi, Des jours meilleurs, Mexico 86, Drop Game, Simone de la Montagne, Until Dawn, La mort sans fin, Promesse et Necha 2. Pour la programmation musicale, eh bien, on va alterner entre des titres que l'on a été chercher dans L'amour c'est surcoté et d'autres dans Des jours meilleurs. Et on commence par un titre que l'on entend sur le générique de fin de L'amour c'est surcoté. C'est un titre italien, ça s'appelle Vivo. Andrea Laszlo de la Simone. Ce n'est pas la première fois qu'on passe des titres de ce chanteur italien, et j'aime bien en général ce qu'il fait. Andrea Laszlo de Simone, le titre qu'on entend sur le générique de fin de L'amour c'est surcoté. Eh bien justement, on commence par L'amour c'est surcoté. C'est un film de Mourad Winter, c'est son premier long métrage, acteur, réalisateur français, scénariste bien entendu, puisque c'est adapté de son roman éponyme. Le film proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR, durée 1h38 avec Hakim Jemili, Laura Felpin. Diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à 2 mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure, un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Françoise Delbecq dans Elle, des personnages assez attachants pour qu'on s'attarde sur cette comédie urbaine très 2025. Baptiste Thion, le journal du dimanche, une comédie romantique drôlement touchante, pouvant compter sur un duo épatant. Thierry Chaise embraye dans West France, un bijou de comédie romantique. Fabrice Leclerc dans Paris Match. Ce premier long métrage de Mourad Winter survole la production comique de ces derniers mois, je suis bien d'accord, grâce notamment à un scénario adapté de son propre livre qui ne relance jamais, qui marie habilement romantisme, humour et sociologie, porté par des dialogues ciselés, souvent acides, qui rythment sans jamais faillir cette rom-com déjantée, mais aussi rêveuse et touchante quand elle évoque le deuil impossible. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, joliment écrite, cette partition coup de cœur est transcendée par ses têtes d'affiche. Guillaume Tolicino dans Télérama, l'alchimie entre Laura Felpin et Hakim Jemili fait des merveilles. Boris Bassi de Le Monde, si l'ensemble témoigne d'une indéniable sincérité pour aborder avec légèreté des thématiques difficiles, le deuil, le refus des sentiments, le résultat est plombé par son male gaze, hein, oui, ce point de vue masculin, et une complaisance malaisante envers ses personnages racistes, antisémites et transphobes. Je pense que le gars a rien compris.
Bah non.
Nicolas Moreno, Les Inrecuptibles. Mourad Winter saisit certes quelque chose de cette ambiance cocooning anesthésiante et généralisée qui nous gagne, mais fallait-il s'en accoutumer à ce point? Donc le film proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce, c'est un film de potes, mais c'est surtout une comédie romantique qui renouvelle complètement le genre. Et pour moi, je vous le dis franchement, ça marquera une date dans le genre de la comédie romantique par la qualité de son écriture, son sens des dialogues, ses seconds rôles tous parfaits et qui ont chacun quelque chose à défendre. Et puis surtout, je reprends le terme, l'alchimie évidente entre les deux acteurs principaux, Laura Felpin et Hakim Jemili, à la fois irrésistible de drôlerie et touchant. C'est un scénario qui multiplie les scènes pleines d'humour, à coups de punchline, et puis qui soudain, au détour d'une scène comme ça, vous cueille par son émotion, au point de vous mettre la larme à l'œil. On n'oubliera pas de sitôt l'histoire d'Anis et Madeleine. Anis, le petit gars de banlieue, timide avec les femmes, ravagé par la mort d'un de ses potes d'enfance, qui a pu compter pendant 3 ans sur les autres gars de la bande pour le soutenir à coups de vanne, et qui là tombe sur Madeleine, une jeune femme forte dont il tombe amoureux, mais sans vouloir tout de suite s'engager par peur de l'échec, et qui va à sa façon l'aider. C'est elle qui va l'aider en l'aimant. Ce film, moi je le dis, c'est un pur bijou. Il sera à coup sûr dans les 10 meilleurs de l'année pour moi, hein, je vous le dis franchement. Hein, tant il est inventif, drôle, remarquablement interprété, tout en étant un parfait reflet de l'air du temps dans les relations amoureuses. Alors Pierre, qu'en penses-tu ?
Eh bien, je pense que ce film est perturbant dans la mesure où il nous balade dans le temps. D'ailleurs, le début nous emmène dans une période d'environ 20 ans en arrière, la période de l'enfance. Toutefois, on a des repères. En effet, qui dit changement d'époque, dit changement de la taille de l'écran.
Exactement.
Et inversement, on passe du grand écran à l'écran carré. Ce film est dérangeant aussi, de par ses dialogues souvent très crus. Et là, permettez-moi de m'interroger très cru au niveau du sexe notamment. Permettez-moi de m'interroger sur l'annonce d'un film tout public. Ah bon, on peut emmener les enfants ? Autre chose concernant les dialogues, c'est du véritable vitriol à propos souvent des Noirs et des Arabes. Alors je vous rassure tout de suite, ce film ne prône pas le racisme, non, pas du tout. Mais il faut prendre les réparties au second degré,
ben oui.
Ce que ne semble pas avoir compris.
Un critique, oui.
C'est de l'humour décapant. Et là, ça fonctionne. C'est de l'autodérision de la part du réalisateur. Et j'ai souvent ri.
Oui, moi aussi.
Côté amour, puisque c'est dans le titre, il y a là une romance naissante et évolutive qui défie tous les clichés de la séduction et de la drague. Et là, c'est très drôle aussi. Si vous êtes nul avec les meufs, comme le dit le synopsis, ne vous inquiétez surtout pas. Un jour, vous ferez la bonne rencontre de celles qui ne cherchent pas forcément le prince charmant, beau et riche. C'est un peu le message de cette comédie romance, avec Laura Felpin et Hakim Jemili au centre de l'histoire. Ah oui, au fait, Laura Felpin est humoriste avant tout, puisqu'elle a eu le Molière de l'humour en 2023. Alors l'ironie, l'humour décapant, eh bien moi ça me va très bien. Donc je vous conseille fortement ce film.
Bon, eh ben nous sommes d'accord.
On est d'accord.
Voilà. La chambre de Mariana. Alors là, on change radicalement de registre. On passe à un film qu'on peut voir au cinéaste, uniquement au cinéaste. Un film de Emmanuel Finkiel, réalisateur scénariste né en 61. Il a commencé comme assistant réalisateur. Il a fait des moyens métrages, des téléfilms, des courts métrages. Et puis en 99, un premier long métrage, Voyage au pluriel. En 2009, Nulle part, Terre promise. Et puis aussi un documentaire en 2010. Je suis un documentaire. 2014, Je ne suis pas un salaud, avec Nicolas Duvauchel et déjà Mélanie Thierry, qui est son actrice fétiche en quelque sorte. Puis en 2017, La douleur, avec Benoît Magimel, Benjamin Biolay et Mélanie Thierry. Et puis il est aussi réalisateur de la série, enfin d'épisodes de la série En thérapie pour Arte. Pierre va nous parler de cette chambre de Mariana.
Durée 2h11, avec Mélanie Thierry, Artem Kirik et Julia Goldberg. Le synopsis, 1943, Ukraine. Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d'enfance, Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Cachée dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine à travers la cloison. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, une aventure humaine hors norme. Les Échos, avec Olivier De Bruyne. Après Voyage et La douleur, le cinéaste évoque une nouvelle fois la Shoah. Interprété par Mélanie Thierry dans l'un des plus beaux rôles de sa carrière, ce film s'impose comme une réussite majeure. L'Obs, avec Nicolas Chalair. Cette puissance de la fiction, Mélanie Thierry l'incarne à elle seule, renversante Mariana, qu'elle interprète en ukrainien et jusqu'au bout des ongles, elle est la chair du récit. La Croix. Huit clos dramatiques sur la vie et la mort, portés par la haute intensité du jeu de Mélanie Thierry, le film joue avec habileté du hors-champ de la guerre et de ses atrocités. Le Figaro, avec Eric Neuhoff. Mélanie Thierry atteint des sommets d'émotion dans ce huis clos, adapté du roman d'Aaron Appelfeld. Le Journal du Dimanche, avec Barbara Théat. Dans cette histoire très émouvante de courage et de résilience, Emmanuel Finkiel déploie un mélange de délicatesse et de force dans les sentiments dont lui seul a le secret. Le Point. Le réalisateur Emmanuel Finkiel signe ici une magnifique adaptation du roman d'Aaron Appelfeld, porté par une Mélanie Thierry habitée. Première, avec Thomas Borrez. À partir du texte d'Aaron Appelfeld, Finkiel signe un film à la fois âpre et romanesque, dont la précision crée une tension avec les pulsations aléatoires du chaos, puissant. Et enfin positif, avec Ariane Allard, une adaptation fidèle, un peu trop in fine, heureusement portée par Mélanie Thierry, captivante dans le rôle titre.
La chambre de Mariana, c'est proposé par les cinéastes, avec deux séances par jour. On est en Ukraine, sous occupation allemande, en 1942-43. Une mère de famille juive confie son jeune fils Hugo à Mariana. Mariana, c'est une prostituée qui travaille dans un bordel, dans une ville d'Ukraine, afin qu'elle le protège des rafles nazis. Alors Mariana l'installe en secret dans un réduit de sa chambre, un grand placard, un réduit quoi. C'est là que Hugo va passer la guerre, observant ce qui se passe dans cette maison, de la présence des Allemands à l'arrivée des Russes, toujours protégé par Mariana. C'est un film absolument inattaquable sur le fond, hein. Qui aurait envie de dire du mal de cette histoire qui est en plus inspirée d'une histoire vraie. La relation Mariana-Hugo est belle, maternelle, aimante, parce que Mariana va se prendre d'amour pour ce petit garçon qui doit avoir une douzaine, treize ans à peu près. Sur la forme, on a un quasi huis clos avec quelques flashbacks sur la vie d'avant, quelques échappées oniriques, avec beaucoup de plans très serrés. Ben c'est normal, on est dans un endroit qui est très très réduit la plupart du temps. On a beaucoup de hors-champs visuels et sonores pour montrer, mais surtout pour suggérer la violence de la vie à l'époque dans ce village d'Ukraine. Mélanie Thierry est absolument remarquable d'intensité, à souligner qu'elle n'est pas doublée, donc elle a dû apprendre l'ukrainien pour le rôle. Ça vaudra peut-être une petite nomination au César, parce que apprendre une langue comme l'ukrainien, alors que je crois il y avait 160 pages de dialogue, c'est quand même une performance. Tout comme le jeune acteur qui incarne Hugo, mais bon, pour moi j'ai trouvé ça très long. Alors historiquement, on n'apprend rien que l'on ne sache déjà, hein, l'antisémitisme, les différentes occupations. Simplement, la nouveauté, si on peut dire, c'est que tout simplement cela est vu à travers le regard de Hugo. Donc il faut absolument s'identifier au personnage d'Hugo pour ressentir une réelle émotion. En fait, le film est autant un film sur l'enfance que sur l'histoire tragique de l'Ukraine à cette époque. Alors moi, je veux bien reconnaître la puissance du récit, mais je dois reconnaître que je me suis un peu ennuyé par moments. Honte à moi pour un film aussi fort, aussi important. Mais bon, c'est pas... non, franchement, je me suis un peu ennuyé, quoi. 2h10, voilà. Bon, ça s'appelle La Chambre de Mariana et c'est au cinéaste. Tout comme au cinéaste, on voit La Légende d'Oshi, mais il n'y a pas qu'au cinéaste qu'on voit ce film. La Légende d'Oshi, on peut le voir au Méga CGR, on peut le voir aussi au Pâté Quinconce. Et donc, Pierre va vous parler de ce film dont le réalisateur est, je ne sais plus qui d'ailleurs.
Isaiah Saxon.
Voilà, ou c'est Saxon, son premier, oui, réalisateur scénariste américain, son premier long métrage.
Saxon, donc.
Oui, son premier long métrage.
1h35 la durée, avec Elena Zengel, Willem Dafoe et Emily Watson.
Alors, c'est des doublages en version
c'est
originale,
les voix,
parce
c'est
que
les voix,
ça, oui. C'est un film d'animation. Oui.
D'animation.
C'est pas un film d'animation complètement, c'est un mélange d'animation et de...
Et de réel.
Voilà, c'est ça.
Le synopsis. Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt, appelées Oshi, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Oshi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s'engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt. La revue de presse, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche, tournée dans les montagnes des Carpates avec des animatroniques et non des effets numériques, cette rencontre du troisième type évoque E.T. de Steven Spielberg par sa grâce, sa pureté, sa douceur, sa délicatesse, sa beauté, sa poésie. Le Parisien avec Renaud Baronian. Une pépite inclassable et magnifique pour toute la famille. Cinéma teaser avec Aurélien Alain. Plaisant à regarder et joliment étrange donc, parfois trop hystérique et bruyant, la légende d'Oshi met du temps à atteindre son rythme de croisière, mais le trouve dans sa seconde moitié où, enfin, les sentiments prennent le dessus sur l'exercice de style. Positif avec Frédéric Ballion. Frédéric Féminin. En privilégiant une approche artisanale dans la conception des effets spéciaux et dans les techniques d'animation, le réalisateur affiche une ambition fort belle, exigeante et soignée, au détriment du scénario souvent inégal. L'Obs avec Nicolas Chaleur. Entre merveilleux Spielbergien et médiévalisme arty, une aventure esthétiquement intrigante mais peu convaincante. Et enfin, Les Inoccupables avec Nicolas Moreno. Sous couvert d'un récit qui prône le respect des espèces sauvages et de la nature, A24 propose surtout l'une de ses œuvres les plus aseptisées et prête à vendre des goodies sans âme, à défaut de planter le virus de la cinéphilie dans le cœur des jeunes spectateurs.
A24, c'est la boîte qui a produit le film. Hein.
Oui.
Voilà. Donc La Légende d'Oshi, c'est un film qu'on va voir à partir de 8 ans, je pense, c'est un film pour les enfants. C'est proposé aux cinéastes, bien traité d'ailleurs, avec 2 séances par jour, au Pâté Quinconce et Omega CGR. Petite pause musicale, c'est un titre que l'on entend dans le film Des Jours Meilleurs, mais vous connaissez forcément ce titre, donc je ne vous l'annonce pas.
Je pourrais te blesser, oui.
Clara Luciani, évidemment, La Grenade, et un titre que l'on entend dans le film Des Jours Meilleurs. Et ben justement, c'est le moment d'en parler, Des Jours Meilleurs. Un film de Elsa Bennett et Hippolyte Dard, réalisateur scénariste pour la première, réalisateur simplement pour le second. C'est leur premier long métrage. Auparavant, ils avaient réalisé des épisodes de séries pour la télévision française, Clem, Alice Nevers, et puis des téléfilms. Pierre, parle-nous de ces Jours Meilleurs que l'on peut voir au Pâté Quinconce et au Méga CGR.
Durée 1h44, avec Valérie Bonneton, Michel Larocque et Sabrina Ouazani. Le synopsis, à la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n'a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif, participer au rallye des dunes dans le désert marocain. Il devra s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier, réaliste et militant. Le Figaro avec Olivier Delcroix, une belle surprise cinématographique. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Cette comédie sociale aborde avec respect et une grande justesse le quotidien de femmes alcooliques en centre de désintoxication. Télérama avec Johan Haddad. Si l'initiative est salutaire, le film perd en crédibilité à force de souligner chaque émotion, les bons sentiments venant systématiquement dévitaliser les moments de bravoure à l'image d'une course de rallye au milieu d'un désert et d'une scène de retrouvailles émouvante entre une mère et ses enfants. Et enfin Première avec François Léger. Si le film n'a que de bonnes intentions et parvient à faire parler du tabou de l'alcoolisme féminin, le scénario programmatique à l'extrême et ses personnages caricaturaux ne rendent pas justice à un sujet autrement plus complexe.
Des Jours Meilleurs, c'est au Pâté Quinconce et au Méga CGR. C'est une comédie dramatique, ce qu'on appelle aujourd'hui une dramédie. Hein, une dramédie, parce que d'ailleurs la partie comédie est quand même très minoritaire. C'est une comédie sociale sur un sujet donc tabou, l'alcoolisme féminin, à travers le parcours de trois femmes en particulier, entourées d'ailleurs de quelques autres dans des rôles secondaires. Chacune de ces femmes étant une sorte d'archétype. Alors il y a Diane, c'est Michel Larocque, elle est actrice et c'est plutôt l'alcoolisme mondain pour elle. Il y a Alice, c'est Sabrina Ouazami, l'alcoolisme festif, et puis surtout Suzanne, Valérie Bonneton, l'alcoolisme de détresse. Elle a plongé à la mort de son mari et se retrouve là à la suite d'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool qui lui vaut d'avoir perdu la garde de ses enfants. Voilà, donc toutes ces femmes se retrouvent avec quelques autres dans un centre de désintoxication, d'addictologie, je ne sais pas comment on appelle ça, où grâce à la bienveillance des soignants et notamment de Denis, animateur très motivé, elles vont tenter de s'en sortir, notamment à travers un projet de participation à un rallye dans le désert marocain. On pense forcément au rallye des gazelles, mais ça s'appelle le rallye des dunes. Voilà, un film sociétal, comme on dit, très documenté, où ce sujet est abordé comme un dossier avec un panel de personnages qui montrent que l'alcoolisme touche tous les milieux sociaux et toutes les tranches d'âge, avec évocation des causes, des symptômes, le déni de l'alcoolisme, des conséquences sur soi, sur l'entourage, le risque permanent de rechute, la possible rédemption. Tout ça, c'est vu dans le film, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'appellerais un film dossier. Autrefois, on appelait ça les dossiers de l'écran. Hein. Quand on était jeune, on avait ça à la télévision, hein, et après, on discutait après le film. C'est un sujet fort, mais sur un pur plan cinématographique, c'est une réalisation totalement passe-partout. Alors, évidemment, c'est le sujet et les personnages qui comptent pour les auteurs. Donc, on pardonnera cette réalisation sans relief, avec notamment je crois qu'un ou deux critiques l'ont souligné, un inutile épisode marocain avec cette histoire de rallye dans le désert et puis une fin très convenue avec, avec la rédemption, bien entendu, forcément attendue. C'est un film qui cherche à sensibiliser sur le sujet, sans donner de leçons, qui le fait de façon convaincante dans une grande partie du film, qui touchera sans doute ceux qui sont concernés de près ou de loin par le problème, en affirmant que, avec sollicitude, on peut s'en sortir, avec une excellente Valérie Bonneton. Le film a été présenté par sa réalisatrice et Sabrina Moisani au Méga Ségère dimanche dernier. Elles ont très très bien vendu leur film. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, des jours meilleurs, Pâté Quinconce, Méga Ségère. Mexico 86, cette fois-ci on repart au cinéaste pour ce film avec une séance par jour. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle César Diaz, acteur, réalisateur, scénariste. Il est né en 78, monteur également. Il est guatémaltéco-belge. Ah. Voilà, oui, et c'est ça, ça n'est pas son premier métrage puisqu'en 2019 il avait réalisé Nuestras Madres pour la VOD et sinon il a fait ses études à la FEMIS à Paris, donc Mexico 86, ça dure 1h33 et il y a une actrice française fort connue dedans, Bérénice Bejo. Mmh. Donc 1986, comme le titre l'indique, Maria, militante révolutionnaire guatémaltèque, est depuis des années exilée à Mexico, où elle poursuit son action politique. Alors que son fils de 10 ans vient vivre avec elle, elle va faire un choix cornélien entre son rôle de mère ou celui d'activiste. Françoise Delbecq dans Elle, tournée comme un thriller d'espionnage, ce film distille avec élégance, suspense et émotion. La Tribune dimanche avec Aurélien Cabrol, oscillant entre interrogation intime et véritable suspense, Mexico 86 tient la note de l'émotion et de l'empathie à l'égard de ce personnage de mère écartelée. La rédaction de West France déclare que Bérénice Bejo impressionne. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, César Diaz aborde la lutte des combattants de l'ombre et le dépassement de soi par le prisme de la famille, à hauteur de femmes et d'enfants. C'est ce qui fait l'originalité et la réussite de ce thriller, à la fois sensible et intense, soutenu par des scènes d'action très réalistes. Boris Bastide Le Monde, de manière convaincante, la mise en scène mêle les codes du film d'espionnage paranoïaque à ceux d'un drame intimiste. La revue positive Adrien Gombeau, malgré toutes ses qualités, Mexico 86 semble ne jamais déployer tout son potentiel. Diaz tourne un film mesuré, bien tenu, mais presque trop modeste. Nicolas Chalère dans L'Obs, pour Bérénice Bejo d'origine argentine et pour le réalisateur qui rend hommage à sa mère, ce portrait d'une résistante à la junte guatémaltèque, tiraillée entre son activisme et l'éducation de son fils, veut dire beaucoup. Pour le spectateur, hélas, c'est l'inverse. Renaud Baronnier, le Parisien, sur un sujet aussi passionnant, on aurait aimé un film qui soit autant, qui le soit autant, las, tout est plat, sans surprise, jamais à le temps dans Mexico 86. Le réalisateur se contentant de serrer de près ses comédiens, Bérénice Bejo en tête, et Pierre l'a vu, donc il va nous en parler.
Oui, bah, je suis un petit peu d'accord avec les galères critiques, c'est pas vraiment génial. Alors d'abord le titre, je vais te rappeler des souvenirs, Michel.
Ah.
En juin 1986, Mexico est l'hôte de la Coupe du Monde de football.
Ah ben oui, bien sûr, la magnifique Coupe du Monde.
Qui sacre l'Argentine, ouais, de Diego Maradona. Oui, il y est fait allusion, mais très peu quand même. Juste quand le petit garçon, alors âgé de 10 ans, arbore fièrement le maillot du pays vainqueur, l'Argentine donc. En fait, il faut chercher ailleurs, du côté politique au Guatemala. Janvier 86 marque un tournant avec l'arrivée au pouvoir du président Cerezo qui veut mettre fin à la dictature militaire et à la violence politique. D'ailleurs, en fait, le film démarre en 1976 et ça commence d'ailleurs très fort. On est dans le noir, pas d'image, d'abord des cris, puis des coups de feu, et l'image qui apparaît seulement après, image d'un homme gisant au sol, criblé de balles. Mais voilà, ce que je redoutais est arrivé, le film est parti vite, trop fort, et puis le soufflet est retombé. Eh oui, nous voilà donc en 1986 à Mexico, ville-refuge de nos protagonistes, des rebelles toujours recherchés par les services secrets guatémaltèques. Et là, le film s'enlise dans des planques successives. Beaucoup de dialogues, oui. Seule une course-poursuite en voiture nous sort de la torpeur, genre French Connection, mais en beaucoup plus court, donc beaucoup moins bien. Quant à la fin, je l'ai trouvée un petit peu légère. Bref, pour moi, c'est un film très moyen, pas indispensable.
Mexico 86. Oui, quand je parlais de la Coupe du Monde de Mexico 86, moi, c'était pas celle-là à laquelle je faisais allusion, c'était la précédente, là où il y avait Pelé, Beckenbauer,
et compagnie. Oui.
Voilà, bon, on passe à Drop Game. Drop Game, c'est au Méga CGR, c'est au Colisée. Je ne sais pas si c'est... Enfin, au Méga CGR, c'est sûr. au Colisée, c'est sûr aussi, et au Pâté Quinconce. C'est un film réalisé par Christopher Landon, réalisateur, scénariste, producteur américain d'ailleurs 75. Il a commencé par des courts-métrages et puis des films qui sont comme en 2010 Burning Palms avec Dylan McDermott et Rosamund Pike, mais ça me semble inédit. 2014, Paranormal Activity, mais pas le premier, hein, des avatars. Ensuite, Marked Ones. Ensuite, 2015, Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Ça, je suis certain que Pierre l'a pas vu, vu le titre déjà.
Non.
2017, Happy Birth Dead, avec Jessica Roth. 2019, Happy Birth Dead to You. 2020, Freaky, avec Vince Vaughn. Et 2023, We Have a Ghost. Avec sur Netflix, voilà. Donc, ça n'a pas un réalisateur qui a beaucoup fréquenté Pierre, vu les titres.
Durée 1h40 avec Christopher Landon. Je suis dans la réalisation, c'est la ligne d'en dessous.
Oui.
Avec Megan Fay, Brandon Sklenar et Violette Bean. Le synopsis, Violette, une jeune veuve qui, pour son premier rendez-vous depuis des années, se rend dans un restaurant très chic où celui qu'elle doit y retrouver, Henri, est encore plus charmant que séduisant. Mais leur alchimie naissante va vite être gâchée quand Violette se voit harcelée, puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions qu'elle reçoit, sous peine que la silhouette encapuchonnée des caméras de sécurité de sa propre maison ne tue son jeune fils gardé par sa tante, la sœur de Violette. Si elle ne fait pas exactement ce qui lui est ordonné, ceux qu'elle aime le plus mourront. La revue de presse, Le Parisien avec Michel Valentin. Le scénario se joue bien de ses contraintes, y puisant au contraire inspiration pour moult rebondissements. Violette ne se laissant bien entendu pas faire, Drop parvient ainsi à plaquer le spectateur à son fauteuil durant la plus grande partie de sa durée. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpech. Cette production Blumhouse ne démérite pas, assumant son statut de série B maligne, régie selon une unité de lieu et de temps qui manque de crédibilité mais entretient savamment la paranoïa contemporaine des harceleurs anonymes sur les réseaux sociaux. Écran large avec Alexandre Janoviak. Étrangement à côté de la plaque, Drop Game rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Première avec Frédéric Foubert. Bien tenu au début, un peu mou au milieu, le film devient complètement fou dans ses 20 dernières minutes, risible, grand guignolesque, tellement délirante que le film pourrait bien finir par devenir culte. Et enfin Télérama avec Johan Haddad. Ce thriller en huis clos, inspiré par les dangers de la technologie omniprésente dans nos vies, avait tout pour séduire. Mais en abusant des retournements de situations absurdes, le film échoue à rendre sa critique pertinente et finit ironiquement par nous faire rire.
Oui, ça m'étonnerait que ça devienne un film culte, hein, mais enfin bon, passons. Violette, donc, c'est une belle jeune femme, psychologue, veuve, avec un lourd passé de victime de violences conjugales. Et pour son premier rendez-vous avec Henri, un bel inconnu rencontré sur un site de rencontre, pléonasme, elle a confié la garde de son jeune enfant, qu'elle élève seule donc, à sa sœur. Mais arrivée sur le lieu du rendez-vous, un restaurant chic, elle se retrouve très vite harcelée par des messages sur son téléphone, des drops, des notifications, des messages menaçants d'un correspondant anonyme qui manifestement observe tous ses faits et gestes. Et ces messages lui intiment progressivement d'accomplir un certain nombre d'actions contre Henri, sinon son fils et sa sœur seront tués par un complice qui s'est introduit chez elle et dont elle peut observer la présence grâce à l'application de télésurveillance qu'elle a sur son téléphone. Violette est terrorisée, mais elle ne peut pas demander de l'aide parce qu'elle est quand même observée, ses faits et gestes sont observés. C'est le début de suspense, prenant, tendu. Alors évidemment, ça n'a aucune forme de vraisemblance, hein. Et puis, il y a un dernier quart d'heure qui sacrifie, comme très souvent, à une forme de surenchère dans l'action. C'est vrai que ça en devient grotesque, mais bon, c'est comme ça. L'affaire est quand même bien menée, avec ses fausses pistes, ses retournements de situation. L'ensemble constitue une honnête série B qu'on peut voir pour se divertir, parce que globalement, il y a quand même un indéniable savoir-faire en la matière. Mais moi, je dis pas que ça va devenir culte. Hein. Je suis même persuadé que ça ne deviendra pas culte du tout. Ça s'appelle Drop Game. C'est proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Je sais pas s'il y a de la VO. Peut-être, après tout, j'en sais rien. Mais moi, je l'ai vu en version française. Voilà. Petite pause musicale. Pierre, on entend ce titre dans Des Jours Meilleurs, donc tu ne l'as pas entendu. Mais peut-être tu vas le reconnaître, mais je ne sais pas. C'est l'époque disco, hein, donc c'est un petit peu plus tard que ta période préférée, toi.
C'est pas Donna Summer ?
Non. Ah, ça aurait pu, hein.
Ah oui, mais j'ai un trou, là.
You Make Me Feel, Sylvester.
Oui, Sylvester, voilà.
Make Me Feel Sylvester est le titre on l'entend dans le film Des Jours Meilleurs. Simon de la Montagne, c'est un film proposé par les cinéastes, une séance par jour pour ce film de Federico Luis. C'est un premier long métrage pour ce réalisateur scénariste argentin qui auparavant avait fait un court métrage. 1h38 pour la durée, Simon a 21 ans et vit en Argentine. Depuis peu, il fréquente une nouvelle bande d'amis inattendus. Auprès d'eux, pour la première fois, il a le sentiment d'être lui-même. Mais son entourage s'inquiète et ne le reconnaît plus. Et si Simon pouvait devenir quelqu'un d'autre ? voulait devenir quelqu'un d'autre. Perrine Kenson dans Cinématiseur, une audace qui aurait été impossible sans un casting parfait, à commencer par son Simone, joué par un Lorenzo Ferro, aussi talentueux que promis à une belle carrière, et à son acolyte Péoun Pédier, au timing comique parfait. Nina Gandara, dans L'Humanité, laissant planer l'ambiguïté, le film lauréat du Grand Prix de la critique à Cannes l'année dernière interroge avec justesse et audace notre rapport au handicap, à la marge et à l'altérité. La Tribune Dimanche part d'un film qui suit ainsi avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité le parcours d'une personnalité complexe en formation. Les Inoccupables sous la plume de Ludovic Béot, en désacralisant et décloisonnant les identités valides non valides, le film permet d'offrir à ses personnages un espace plus inclusif et élabore une pensée généreusement subversive pour repenser notre rapport à la norme. Là, il faut aller voir le film pour comprendre. Yannick Velli, Paris Match. Tout le talent du jeune réalisateur tient dans sa capacité à susciter un trouble constant sur les intentions de son héros. Nicolas Moreno dans Première, le réalisateur donne une matière en or à son acteur principal qui gagne sur les deux tableaux en jouant simultanément un jeune homme et un usurpateur, usant de mimétisme pour se faire passer pour un handicapé. Cela donne un grand nombre de séquences mémorables à la piscine, en entretien ou avec une fille, et toutes participent à repenser ce que l'on entend par altérité. La rédaction du Point, un premier film maîtrisé, qui révèle une nouvelle voie prometteuse. Et Marie Sauvion dans Télérama, un récit audacieux et troublant autour du handicap. Nous n'avons pas vu Simone de la Montagne, pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de séances.
Non, puis
il n'y en a qu'une par jour.
Pas trop envie non plus.
Voilà, c'est vrai, je n'étais pas non plus hyper motivé pour aller le voir. Until Dawn, La mort sans fin. Là, je n'étais pas non plus très motivé, mais je l'ai vu. C'est un film qu'on peut voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film de David F. Sandberg, réalisateur, producteur né en 81. Il a réalisé en 2016 Dans le Noir avec Maria Bello. 2017, Annabelle 2, La création du mal. 2019, Shazam avec Zachary Lévy et Mark Strong. Et puis 2023, Shazam, La rage des dieux, la suite du premier avec toujours Zachary Lévy. Pierre va nous parler brièvement de ce Until Dawn.
Durée 1h43. Attention, ce film est interdit au moins de 12 ans.
Normal.
Et avertissement pour les autres quand même. Mm-hmm. Le synopsis. Un an. Ah, je vais pas donner les acteurs.
Ella Rubin, c'est pas grave, hein.
Michael Cimino 2, donc ça doit être.
Ça n'a rien à voir avec la réalité, elle est morte.
Ah bon?
Oui.
Oui, bah donc c'est pour ça qu'ils ont mis 2. Et Odessa Azion. Le synopsis. Un an après la mystérieuse disparition de sa sœur Mélanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu pour chercher des réponses. Alors qu'ils inspectent une auberge de jeunesse abandonnée, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué et horriblement assassinés un par un, mais se réveillent ensuite et se retrouvent au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, ils sont forcés de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois, la menace du tueur est différente et chaque version est plus terrifiante que la précédente. Alors que l'espoir s'amenuise, le groupe comprend qu'ils n'ont qu'un nombre limité de vies et que leur seule chance de s'en sortir est de survivre jusqu'à l'aube, d'où le titre.
Voilà.
Alors, c'est vrai que la revue de presse va être brève. Écran large avec Geoffrey Crété. L'idée d'adapter le jeu vidéo Until Dawn était douteuse, mais on peut saluer les efforts de l'équipe qui a cherché une bonne pirouette pour s'en sortir. Résultat, un film qui a le mérite d'essayer d'éviter les pièges sans y parvenir au-delà de quelques scènes amusantes, et ça donne surtout envie de revoir La cabane dans les bois. Et enfin, Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpech, une farce gore ultra référencée mais qui fourmille d'idées amusantes.
Voilà, ben je l'ai vu, un film d'horreur, gore, sans le moindre intérêt, ou alors il faut être un amateur pur et dur du genre, et encore, parce que les amateurs ne se contenteront peut-être pas de cette succession mécanique de ce genre de scène gore. Le point de départ est, ma foi, simple, hein, dans l'espoir de retrouver la trace de Mélanie, Mel, disparue mystérieusement il y a un an déjà, sa sœur Clover et deux couples de copains partent sur ses traces. Ils arrivent ainsi jusqu'à une sorte de manoir-hôtel mystérieux, isolé au fin fond d'une forêt où, semble-t-il, Mélanie a laissé les traces, elle est passée, il y a son nom inscrit sur le registre de l'hôtel. Commence alors pour eux une nuit d'épouvante où ils sont massacrés un par un par un mystérieux homme masqué. Alors jusqu'ici, on est dans un slasher classique, mais la nouveauté, c'est que les personnages, en quelque sorte, ressuscitent pour d'ailleurs remourir dans des circonstances encore plus sanglantes, et ceci un certain nombre de fois, d'où le titre français « La mort sans fin ». Voilà. Alors, donc, ça apparente le film une sorte de « Un jour sans fin », la fameuse comédie, mais dans le registre de l'horreur. Alors, ne cherchez pas la moindre rationalité ou un début de logique, il n'y en a absolument pas. Il s'agit juste d'aligner des scènes d'horreur toujours plus violentes qui se succèdent ainsi jusqu'à la fin, qui, bien sûr, je vous rassure, est heureuse, hein, bien sûr. Pour ça, eh bien, on multiplie auparavant les scènes avec des jumpscares, des effets gore ultra classiques, explosions de corps, boyaux dégoulinants, éventrations, tout ce qu'apprécie Pierre.
Voilà, ah oui, d'accord, tout à fait. Hein.
La seule personne à féliciter ici, c'est à mon avis le décorateur, en tout cas, beaucoup plus que le scénariste. Le scénariste nous offre un grand n'importe quoi, sans queue ni tête. À noter qu'il s'agit de l'adaptation d'un jeu vidéo. Moi, je ne connais pas grand-chose en jeu vidéo, d'où sans doute le côté répétitif de l'histoire. C'est toujours un peu répétitif, les jeux vidéo. Enfin, du moins à l'époque où je m'intéresse à eux. Bon, il faut aimer le gore pour apprécier, mais moi, je déteste pas le gore. Mais là, franchement, bon, non, c'est non. Voilà, c'est un film qui est proposé au méga CGR, au Pathé Quinconce. Je ne crois pas qu'il y a le VO, mais peut-être, après tout, qu'il y a de temps en temps une VO qui se balade au Pathé Quinconce. Promesse, cette fois-ci, c'est uniquement au Colisée, attention, il n'y a pas beaucoup de séances. C'est un documentaire de Thomas Hugues de La Rose et de Lorraine Hugues de La Rose. Alors, Lorraine Hugues de La Rose, elle est réalisatrice parce que, bon, elle est décédée, mais c'est elle qui a fait les images. Avec le synopsis, vous allez comprendre tout ce que je viens de vous dire. Lorraine, 22 ans, laisse derrière elle l'image d'une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d'heures de vidéos qu'elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n'a jamais vu ces images et il s'était promis d'en faire un film avec son frère jumeau. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d'interroger sa mémoire, celle de sa famille, et de réaliser sa promesse. Voilà, donc 1h31 pour ce documentaire. Lacroix déclare que cette histoire singulière, entrecoupée de furtives scènes d'animation, permettent d'illustrer l'indicible, prend très vite un goût d'universel qui fait toute la force du film. Télérama, sans pathos, voilà un film bouleversant parce qu'il dit de la vie et de la finitude, de la force et de l'espérance. Bon, nous n'avons pas vu, pas très envie de voir ce genre de film. C'est un documentaire et je répète, il est proposé par le Colisée avec pas beaucoup de séances. Hein. Généralement, il y a une séance par jour, peut-être deux, je ne sais pas. Voilà. Dernier film affiché cette semaine, c'est un film un peu ovni, hein, Necha 2, enfin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, N-E-Z-H-A en chinois, je pense que ça se prononce comme ça. Necha 2, c'est un film de Yu Yang, acteur, réalisateur cinéaste chinois né en 80. Il a auparavant réalisé des films d'animation qui sont totalement inédits en France. Un qui s'appelait Le Voyageur aux menottes et puis le premier Necha, puisque ça c'est le deuxième. Voilà. Alors ça fait 2h24. Hein.
Oula.
2h24, c'est un film d'animation. Il est proposé, il me semble bien, uniquement au Pathé Quinconce. Alors peut-être qu'au Pathé Quinconce, il est en VO, je vais vérifier tout à l'heure. Alors, je vous fais le synopsis, mais je vous dis, je ne comprends rien à ce que je vais dire. Necha, enfant démon élevé par des humains, forme une alliance précaire avec le prince dragon Hao Bing au cours d'une bataille épique destinée à protéger leur clan. À la suite de cette bataille, l'être d'Hao Bing s'intègre au corps de Necha, qui s'embarque alors dans une quête dangereuse pour un élixir qui peut restituer la forme physique d'Hao Bing. Pendant ce voyage jalonné d'affrontements avec les démons, il découvre une conspiration qui va déclencher une guerre dévastatrice entre le ciel et la terre. Necha doit déjouer ses forces traîtresses pour protéger ce qui lui est cher. Bon, je n'ai rien compris ce que j'ai dit, mais voilà ce qu'on nous dit. C'est inspiré de la mythologie chinoise, c'est revu de manière audacieuse, c'est un film d'animation révolutionnaire, méticuleusement façonné par une équipe de 4000 collaborateurs, qui est devenu le film d'animation numéro 1 au box-office mondial. Bon, alors, c'est le numéro 1 au box-office mondial parce que c'est les Chinois qui sont allés le voir. Et les Chinois,
allés
voir un film, ils sont très nombreux, voilà. Alors, la revue de presse, Renaud Baronian dans Le Parisien, difficile de saisir les finesses de cette intrigue si on n'est pas spécialiste de l'histoire et des mythologies chinoises ou fan acharné d'animes chinois. Mais le phénoménal succès du long métrage repose également sur l'excellent bouche à oreille concernant ses qualités graphiques. Télérama Johan Haddad, on s'émerveille devant la richesse d'un univers foisonnant dans lequel les cochons volants croisent les dragons célestes et où les scènes de combat impressionnantes se marient à merveille avec un humour bon enfant pour petits et grands. Le Point, d'une durée de 2h25, Necha 2 fait preuve d'une imagination infinie depuis ses dieux animaux jusqu'à ses plans larges épiques jusqu'au vertige. En résumé, on n'a rien compris, mais c'est très beau. Voilà, donc moi je ne suis pas allé le voir. 2h20 d'animation, c'est au-dessus de mes forces.
Bah, surtout pour les enfants. Hein.
Bah, je ne crois pas que ce soit vraiment tout à fait pour les enfants, c'est surtout pour les ados, je pense.
D'accord.
Hein. Voilà. Allez, dernière pause musicale avant de nous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. C'est un titre d'un enfant que l'on entend dans L'Amour C'est surcoté, c'est un très beau titre d'ailleurs. Ça s'appelle Cruising to the Park, Duran Jones and the Indication.
Oh, connais
cette
pas.
Fois-ci, ouais, moi non plus, je connais pas. Cette fois-ci, c'est sur Radio Alpa, 7.3 FM Le Mans. Donc, je répète le titre, Cruising to the Park, et le groupe Duran Jones and the Indication.
Let's go cruising to the park, cruising after dark. Let's go out. Slow it down to five on an endless drive. Let's go out. Baby, let's cruise.
Ce très beau slow, Cruising to the Park, en fond sonore. Pour vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, il n'y a pas d'avant-première la semaine prochaine, et donc il y a comme sortie Thunderbolts. Alors ça, ni Pierre, ni moi, ni Renvoir, Thunderbolts, ça a l'air d'être une histoire de super-héros Marvel encore.
Voilà.
Bon. Les Linceuls de David Cronenberg, ça m'intrigue un petit peu, ça sera au cinéaste à coup sûr. Il devrait y avoir également ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, c'est annoncé au cinéaste, ainsi que Tu ne mentiras point. Les autres films, je les donne sous toute réserve. Il devrait y avoir peut-être des règles de l'art, je ne sais pas, j'en suis pas sûr à 100%. Par contre, je suis à peu près certain à 100% d'une pointe d'amour avec Julia Piaton et Grégory Gadebois, parce que là, j'ai vu les bandes annonces. Voilà, ça, c'est les films de l'affiche la semaine prochaine. Je pense qu'on devrait être un peu moins débordé que cette semaine. Cette semaine, nous recommandons unanimement.
Oh, alors, allez rire, voir l'amour, c'est surcoté et ça va vous faire beaucoup de bien.
Oui, alors précisons que je le disais tout à l'heure, Necha 2, c'est au Pathé Quinconce et c'est que de la VO pour les séances. 2h24 pour ce
film. En sous-titre en plus.
Ben oui, mais bon, quand on aime, on n'en compte pas. Voilà. Bien. Eh bien, c'est sur cette chanson que l'on va se quitter et on se retrouve, nous, normalement, la semaine prochaine sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans.
Au revoir. Thank you.